Vous avez vu quel été merveilleux nous avons. Il paraît qu'en Suisse, ils étouffent tellement qu'il fait chaud. C'est bien, on est content pour eux. 1 Timothée 6, 20, s'il vous plaît. Enfin, ceux qui m'ont écrit qu'en Suisse, on étouffe, c'était qu'ils étaient dans leur chalet, c'est-à-dire dans les hauteurs, par-dessus les nuages. Donc, je pense que voilà pourquoi eux, ils étouffent. Peut-être que les autres, ils sont comme nous en Bretagne. Non, c'est pas vrai. J'ai des Bretons parmi nous, faut pas dire ça. C'est pas vrai. En Bretagne, il fait pas plus de pluie qu'ailleurs. En tout cas, pas plus qu'en Normandie. 1 Timothée 6, 20, vous y êtes. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont quelques-uns font profession, qui se sont ainsi détournés de la foi. Amen. Souvent, les incrédules nous disent que la science contredit la Bible, ou plutôt que la Bible contredit la science, parce qu'en plus, ils ont un gros cheville, hein. Quelle science? Parfois, ils cherchent à nous impressionner, nous disant que les choses de la foi, ça n'a rien de scientifique, faut pas tout mélanger, tout. Ah bon? En fait, ceux qui disent cela, en général, ils connaissent de la science que ce qu'ils ont étudié, c'est-à-dire une partie. Et ils se sont pas donné la peine de comprendre qu'il y a une science de Dieu. Il y a une science de Dieu. Le disciple de Jésus-Christ, il a accès à la science de tous les mystères des choses de la création. C'est ce que la Bible nous dit. Je dis bien accès, je ne dis pas la possibilité de tout comprendre, mais nous avons accès. Alors, voyons qu'est-ce qui se cache derrière ce mot si impressionnant de science. Ce mot vient du latin, je vous ferai la grâce de vous dire le mot latin, avec mon accent latin bien connu, mais ça signifie savoir, savoir. En fait, la science est un ensemble cohérent de connaissances relatives à des catégories de faits, d'objets ou de phénomènes qui obéissent à des lois qui sont vérifiées par des méthodes expérimentales. Voilà ce que c'est la science. Alors, messieurs, mesdames, étudiez l'histoire et vous allez découvrir par l'étude scientifique que toutes les civilisations qui ont rejeté la morale, les lois divines, ont sombré dans la décadence et puis ont fini par disparaître. On peut observer cela scientifiquement. Pourquoi ? Parce que ça s'est répété tellement souvent, non seulement à l'échelle des nations, des empires, mais aussi des personnes. Donc, il y a une loi morale divine qui est parfaite, qui est contrôlable, qui est magnifique, qui est universelle et qui, quand elle est mise en pratique rigoureusement, permet à l'être humain de vivre paisiblement. Alors réfléchissons honnêtement, parce que vous avez des gens qui réfléchissent pas malhonnêtement, mais ils réfléchissent superficiellement. Disons qu'on va réfléchir un peu plus loin que superficiellement. Le livre qui nous fait connaître cette loi divine, si parfaite, si extraordinaire, et si contrôlable, si vérifiable, par l'expérimentation rigoureuse, ce livre qui nous fait connaître cette loi divine serait un tissu de mensonge par ailleurs? Ça semble bizarre, n'est-ce pas? Le Dieu qui aurait donné ces bonnes lois serait un Dieu mauvais? Ou le message de Dieu tel qu'il est écrit dans la Bible ne serait que l'invention d'un groupe d'hommes menteurs, calculateurs, manipulateurs? Comment un homme aussi bon que Jésus pourrait-il être un menteur? D'un côté, il disait des paroles merveilleuses, il faisait des choses merveilleuses, et d'un autre, il serait tellement bête et tellement prétentieux qu'il prétendrait faussement être le fils de Dieu? C'est incohérent. Et on a vu que, pour étudier une chose, il faut qu'il y ait une cohérence. Mais il faut admettre ce qu'on a en face de soi. Parce que maintenant, l'existence historique de Jésus n'est plus à mettre en doute. On reconnaît l'arbre à son fruit. Comment un menteur, calculateur, cynique, manipulateur de conscience pourrait-il faire de si bonnes choses, même des miracles, des résurrections, prendre la défense des pauvres, inspirer ceux qu'il a connus au point qu'ils sont même, pour la plupart, morts martyrs parce qu'ils ont refusé de renier la divinité de Jésus. Comment un homme aussi extraordinaire pourrait-il être, de notre côté, un menteur et dire « je suis le Fils de Dieu » et que ça soit faux? Si votre science demande de la cohérence, je vous demande donc d'être cohérent avec les choses de Dieu, comme vous l'êtes avec d'autres choses. Les choses de Dieu ne sont pas considérées par vous, par les incrédules, comme une science. Pourquoi ? Ben parce que vous ne donnez pas la peine de savoir. Et ce qui vous retient, en fait, je vous le dis, c'est simplement l'histoire du péché. Combien de fois on m'a dit « Ah, s'il n'y avait pas cette histoire de péché !» Ça, c'est embêtant, l'histoire du péché. Aussitôt qu'on parle de Jésus, alors on se sent accusé parce qu'il est tellement extraordinaire, son message est tellement extraordinaire, qu'on se sent accusé, alors on préfère ne pas savoir parce que on se sent accusé. Mais Jésus n'est pas venu pour vous accuser, il est venu vous montrer comment vous pourriez être vous. Vous n'avez pas envie d'être extraordinaire? Il ne faut pas se tromper dans la façon d'étudier. La science, c'est le savoir. Être disciple de Jésus, c'est aussi embrasser la discipline des faits historiques vérifiables. On n'est pas que des croyants béats, stupides, qui croient des choses invraisemblables sans aucune raison. Ce n'est pas être un disciple de Jésus, avoir la connaissance d'un seul domaine. On ne peut pas avoir toute la connaissance de tous les domaines. Mais on ne se borne pas qu'à un savoir. Aujourd'hui, je vous disais donc que l'existence historique de Jésus ne peut plus être mise en doute. Alors, les incrédules, maintenant, ils essayent pas de se bagarrer là-dessus, mais ils essayent de s'attaquer aux écrits saints, c'est-à-dire à ce que les prophètes ont dit, à ce que Jésus a dit, à ce que les apôtres ont dit. Ils vont jusqu'à dire que c'est peut-être pas eux qui l'ont dit, enfin n'importe quoi, pour pas vouloir savoir. Parce que s'ils savent, ils seront obligés d'arrêter leurs péchés. C'est ça le problème. Or, il y a une science de tous les mystères qui existent. On trouve ça dans 1 Corinthiens 13, 2. La Bible parle de la profondeur de la richesse de Dieu, de la profondeur de la sagesse de Dieu et de la profondeur de la science de Dieu. Romains 11, 33. Science de Dieu. Mais tout ça, ça reste incompréhensible quand on se borne aux sciences du visible. Qui plus est, en se spécialisant dans seulement une de ces sciences, on est vraiment étriqué dans notre savoir. Depuis un peu plus de 100 ans maintenant, la science humaine, elle va chercher dans l'invisible. Ah, ça, c'est un immense progrès. Déjà, on se donne la peine d'aller voir s'il y a du visible dans l'invisible. Ça, c'est super. Donc les chercheurs ont trouvé qu'il existe des choses qu'ils ne voient pas, des sons qu'ils n'entendent pas. Ah, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Ah, déjà on parle d'infiniment. Infini, ça fait penser à éternel tout ça. C'est un immense progrès pour l'humain. L'homme s'aperçoit qu'il y a des forces invisibles dans cette création. Autrefois, on mettait ça sur le dos du diable, hein, le magnétisme et toutes ces choses-là. Maintenant, on s'aperçoit que non, ce sont des forces, voilà, quoi, elles sont contrôlables. Mais il refuse toujours d'admettre que ça provient d'un esprit. Maintenant, il y a, parce que les esprits, ils ne les ont pas vus, donc voilà. Mais comme ils cherchent dans ce qui est invisible, il y a l'espoir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la science quantique. Alors, la science quantique, là, on s'approche de la reconnaissance de ce que la Bible appelle l'esprit. Maintenant, eux, ils disent pas l'esprit, ils disent lumière ou énergie. Mais enfin, ils y viennent tout doucement. Il y en a qui osent dire esprit. Vous voyez, en fait, ces scientifiques sont des gens merveilleux. Ils sont en marche, mais ils sont en retard. On ne faut pas se laisser impressionner par eux. Ils sont en retard. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu joue avec eux. Il joue à cache-cache. Il se cache. C'est écrit aussi ça, qu'il se cache. Maintenant, écoutez bien ça. La clé de la science, elle se trouve dans le livre d'Enoch. La Bible, c'est un livre que Dieu a voulu que nous ayons, qui est magnifique, mais la clé, c'est dans le livre d'Enoch. Jésus a reproché aux religieux de son époque, c'est-à-dire aux gens qui avaient le savoir, les scientifiques, d'avoir enlevé la clé de la science. Il dit ça, hein? D'avoir caché ce livre et d'autres encore. Dans Luc 11, 52, vous trouvez ça. Car pour savoir, pour avoir la science, le savoir de toutes choses, ces mystères de Dieu, il faut connaître les origines. Connaître les origines. Si on ne connaît pas les origines, comment on va faire? Et les scientifiques de l'époque de Jésus, donc les religieux, ceux qui avaient accès au savoir, ne voulaient pas que cette science tombe dans les mains des petites gens comme vous et moi. Ils ne voulaient pas ça parce que ça leur aurait enlevé, n'est-ce pas, leur aura de pouvoir, de mystère. Les scientifiques, c'est-à-dire ceux qui avaient le savoir, ils avaient pourtant reçu un ordre divin de garder cette science. On trouve ça dans le prophète Malachi, chapitre 2, verset 7. Mais de la garder pas dans le sens de la dérober, pas de la garder pour eux, mais dans le sens de la protéger et de l'utiliser de façon correcte. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis leurs yeux là-dedans, ils ont dit « Ouh là là !» Ils ont fermé la porte, ils ont dit « Non, 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 faut surtout pas qu'on parle de ça. » Peut-être en petit comité, oui, et encore, faut choisir, hein. Or, Jésus dit qu'à la fin des temps, à la fin du temps de l'Église dans les nations, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Et elle augmente, mes frères et sœurs, dans tous les domaines. Les incroyants ont découvert des merveilles, leur connaissance a augmenté, c'est indéniable, c'est formidable. Maintenant, celle des enfants de Dieu, est-ce qu'elle a augmenté? Il y a eu un progrès fantastique avec Luther. Après, il y a eu des progrès, c'est devenu extraordinaire jusque dans les années 60. Et après, c'est floupe. Pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'augmentation dans la connaissance. Vous parlez avec les gens, c'est toujours moyenâgeux. C'est toujours genre, le diable est fort. Oh, le diable va nous attaquer. Oh, le diable m'a attaqué. Oh, le diable. Moyenâgeux. Le peuple périt par manque de connaissances. Ils ne connaissent pas. Le peuple de Dieu manque de connaissances, manque de savoir, manque de science. Et quand on leur dit qu'ils manquent de science, ils nous disent « Oui, mais la connaissance a fait enfler. » Ce qu'il faut, c'est l'amour. Chiche. Ah, on m'a tellement balancé ça. Ah, Michel, t'es un intellectuel. Ah bon? Il trouve que je suis un intellectuel. Alors, j'ai une piètre idée des intellectuels, alors. Si moi, je suis un intellectuel. Michel, t'es un intellectuel. Tu cherches toujours, tu veux toujours savoir, tu veux toujours que... Alors, oui, mais ce qu'il faut, c'est l'amour. Ah bon? Chiche, comme je dis. Et comme disait l'autre. Écoutez bien ça, maintenant. C'est très vrai. Qu'il faut d'abord cette vertu, cette force qu'est l'amour, avant de recevoir cette connaissance. Soyez très attentifs, parce que cette phrase-là qu'on nous balance tout le temps, oui, la connaissance vous enfle, ça vous fait enfler, la connaissance c'est... Hein, puis après vous devenez orgueilleux, etc. Et puis oui, ce qu'il vous faut c'est l'amour. Eh bien, écoutez-moi bien. Ne serait-ce pas parce qu'il y a un manque d'amour dans les milieux chrétiens que Dieu ne dispense pas sa connaissance, sa science dans ce milieu? Ah, parce que Dieu est bon. Si tu as toute la science des mystères, mais que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, nous dit 1 Corinthiens 13, 2. Si tu n'as pas l'amour, tu peux avoir toute la connaissance, ça sert à rien, tu n'es rien. Alors vous voyez, la science donne de la puissance à celui qui la possède, mais comme disait le prophète William Branham, avoir la puissance, avoir de la puissance sans avoir le caractère de Christ, ça rend démoniaque. Et voilà pourquoi Dieu ne donne pas tant de connaissances à ce peuple d'aujourd'hui, parce que il y a un problème d'amour fraternel, il y a un problème d'amour des choses de Dieu. On déplace la puissance de Dieu sur d'autres choses. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Regardez le monde qui est livré à lui-même. Regardez le monde qui est livré aux puissances de mort. Il a une connaissance phénoménale parce qu'il obéit à des règles qui sont les siennes, celles de la mort et de la destruction, celles de la perversité, celles de son maître. Mais ils ne veulent pas le caractère de Jésus. Ils sont soumis à leur maître. Ils ont pour père qui ? Ben voilà. Alors, cette science extraordinaire qu'ils développent, bien sûr que ça peut faire du bien, mais ça leur sert surtout à se ruiner. Mais regardez tous ces gens extraordinaires qui font des études phénoménales et puis qui conduisent les nations à la ruine. Mais c'est infernal, cette histoire. C'est incroyable. Toute la connaissance que Dieu tend dans le sens, il tend sa main vers l'Église, toute cette connaissance qu'il voudrait que nous ayons, elle ne peut être reçue qu'avec de l'humilité. C'est-à-dire, avec un profond désir d'être encore plus utile. Parce que mes frères et sœurs, c'est quoi une église vivante? C'est une église où il y a du bruit? C'est une église où il y a beaucoup de louanges et de choses? Non, une église vivante, c'est une église qui donne la preuve de son utilité. Regardez Daniel, le prophète Daniel. Qu'est-ce qu'on trouvait chez Daniel? La Bible nous dit, Daniel 5:12, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, et des pouvoirs surnaturels. C'est quoi un esprit supérieur? C'est un esprit éclairé qui a le caractère de Jésus, et non l'arrogance des apprentis sorciers. Regardez frère Osborne, 89 ans. Il a une grande connaissance des mystères de Dieu, beaucoup d'humilité. Il est intelligent, très humble. C'est-à-dire, il est intelligent. Ça veut dire qu'il sait faire valoir ce qu'il a reçu, il sait faire valoir son savoir pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres et pour sa satisfaction personnelle. Il est heureux. Ça, c'est un homme incontestablement accompagné par Dieu. Il a des pouvoirs surnaturels incontestables. Si vous avez la bénédiction de pouvoir le côtoyer, le rencontrer, vous allez voir en lui un cœur qui a le caractère de Jésus, cette douceur, cet amour, cette gentillesse, cette fermeté aussi. C'est où il va. Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on ne changera pas le monde. Par contre, nous sommes appelés à nous parfaire. Il faut faire un constat, voilà, c'est ça, comme ça, comme ça. Alors faites des progrès, voilà ce que la Bible nous dit, faites des progrès, marchez de progrès en progrès. Nous ne pouvons pas progresser si nous restons avec une connaissance moyenâgeuse des mystères de Dieu. Si nous restons avec une connaissance moyenâgeuse des mystères de Dieu, nous ne pouvons pas progresser. Il faut vouloir sortir des connaissances moyenâgeuses des choses de Dieu. C'était bien Moyen-Âge. Mais ça a changé. Dieu parle. Il nous faut la connaissance des mystères de Dieu, sa science. Mais pour l'avoir, pour qu'il nous la révèle, il faut qu'il voie dans nos cœurs de l'amour. De l'amour. Si nous voulons vraiment vivre à la hauteur de notre nature divine, nous qui sommes fils et filles de Dieu d'origine divine, il nous faut faire des efforts pour conformer nos vies aux principes de la parole de Dieu. Ainsi, on pourra devenir capable de distinguer les murmures de l'esprit au milieu de tout le bruit que le monde fait. Parce que le monde fait du bruit. Et puis non seulement nous pourrons les distinguer, mais nous pourrons les comprendre. J'ai vu une photo dans une revue chrétienne. C'est une église, et dans cette église, tout le monde écoute le bon pasteur qui est en train de prêcher. Et puis, il y a une jeune fille qui est là avec son téléphone portable en train d'envoyer un SMS à quelqu'un. Croyez-vous qu'elle va comprendre ce que l'Esprit dit? Non. Pour comprendre ce que l'Esprit dit, il faut se discipliner, il faut se rendre attentif, il faut être attentif. Par exemple, si là tout d'un coup je vous dis maintenant ne faites plus de bruit, on va rester une minute sans faire de bruit, et vous allez écouter ce que vous entendez, ce qu'il y a comme bruit. Ben, même si vous ne faites pas de bruit, vous allez entendre des choses. Puis après, je vais vous dire, vous entendez quoi? Et petit à petit, votre oreille va s'habituer, et vous allez même entendre le tic-tac de votre montre si elle fait un tic-tac. Mais là, est-ce que vous l'entendez au tic-tac? Non. Vous entendez quoi là? Vous entendez moi? Vous entendez le gamin qui marche au fond? Il semble qu'il y a deux, trois bruits. Il y en a plein. On ne les entend pas. Et surtout pas les murmures de l'esprit. Si vous n'êtes pas attentif. Parce que Saint-Esprit, quand il arrive pas avec ses gros pieds. Bonjour, c'est moi que je suis le Saint-Esprit. Maintenant, je vais te parler. Ainsi dit le Seigneur, ça. En général, quand ça commence comme ça, ça se termine par ne regarde ni à gauche ni à droite, mon petit troupeau. Excusez-moi, si j'ai que ça à dire, mieux d'aller se coucher. Non, le Saint-Esprit a tellement de choses importantes à dire. Tellement de choses importantes à dire. Michou me parlait hier d'un livre qu'elle est en train de lire, que les chrétiens se gargarisent à lire, et ils se l'envoient, ils se l'offrent, ils sont tellement contents avec ça. Je ne dirais pas le titre, mais voilà. Alors, c'est Dieu aime tellement les animaux qu'il y a plein d'animaux autour du trône de Dieu. Et là, il n'y a pas longtemps, il y avait un lapin qui rongeait le trône de Dieu. Voilà. Ça, c'est dans les. C'est, je vous assure, c'est dans la librairie chrétienne, rue Serrambuteau, c'est ça? On trouve ça là. Là, il y a un petit lapin qui ronge. Mais ce n'est pas pour les enfants. Hein. Voilà où on en est. Puis ils sont là. Oh, Dieu aime les animaux, alléluia. Il a un petit lapin. Et pendant ce temps, le monde meurt. Pendant ce temps, le monde souffre. Pendant ce temps, le monde chante. Alléluia, il y a un petit lapin. Ronge le trône de Dieu. Souvenez-vous quand Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. Quand est-ce qu'il vous a parlé la dernière fois? Écoutez-le. Pour l'écouter, il faut disposer nos cœurs dans le bon sens, dans celui de l'amour. L'amour, le vrai, il cherche à édifier, il cherche à construire pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres. Et quand on a cette qualité d'amour-là dans le cœur, on est content, on est satisfait, on est heureux, on est productif pour le bien. Alors on est satisfait, on est content, on est heureux. Bien sûr, on peut avoir des problèmes aussi, mais comme on a de l'amour, ben, on arrive à passer par-dessus, puis on entend la voix de l'esprit, puis on passe à d'autres choses, puis on continue à être productif. Et c'est là que Dieu, c'est dans de tels cœurs que Dieu dépose sa science. Parce qu'il y a la science de Dieu, mes frères et sœurs, mais il y a aussi la fausse science. Souvenez-vous du texte du début. Qu'est-ce que c'était le texte du début? Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science. 1 Timothée 6, 2. Mes frères et sœurs, progressons dans l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'avant-dernière pierre de la construction. L'avant-dernière pierre de la construction de 1 Pierre 1, 5, 7. Vous vous souvenez de ça? Faites tous vos efforts pour ajouter à ceci, cela, et ajouter à cela, ceci, et ajouter encore cela, et ajouter, et presque à la fin, ajouter l'amour fraternel. On en est là. Et puis ensuite, Dieu déposera la pierre de fait, c'est-à-dire l'amour sur la construction. L'amour. Cette exhortation, elle est aussi pour nous. Nous qui sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'Église des Nations. C'est pas le moment d'abandonner cet amour que nous avons pour Jésus. Cet amour que nous avons pour les uns et les autres. L'amour fraternel, l'amour pour les gens du monde afin qu'ils soient sauvés. Il faut pas abandonner ça. Il ne faut pas se laisser envahir par les inquiétudes, comme on l'a chanté tout à l'heure, frère Alain nous a fait chanter ce chant. C'est la peur, c'est les inquiétudes qui détruisent l'amour. Alors on se cache, on ne veut plus prendre des coups, et puis alors évidemment on finit par se regarder le nombril. C'est pas bon. C'est, la solitude, ça va à un moment quand on veut rencontrer Dieu, mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut aller vers les autres, même si on prend des coups, les aimer, les bénir, on est là pour ça. Jésus est venu, il savait très bien qu'il allait prendre des coups, mais il a tant aimé le monde. Et nous devons être à son image. Mais comment pouvons-nous aimer si nous n'avons pas la connaissance? Mais comment pouvons-nous avoir la connaissance si nous n'avons pas l'amour? Il faut toutes ces choses. On ne peut pas être des spécialistes de l'amour, ou des spécialistes de la louange, ou des spécialistes de la guérison, ou des spécialistes pour les drogués, ou des spécialistes... Non, 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 ça c'est bon pour le monde, c'est l'esprit du monde maintenant qui veut ça. Nous, il nous faut toute cette science. Il nous faut tout ça. Alors il y a du boulot! Il y a du boulot! Alors c'est vrai qu'on a le droit de lire des tas de choses, des trucs rigolos. Moi aussi je lis Tintin, Mickey. On a le droit de regarder un bon film. Hier soir j'ai regardé un bon film, Maggie Thatcher. Je vous recommande de regarder ce film, ça fait réfléchir. Bon, il y a des tas de choses, mais ne passez pas la majorité de votre temps à vous... quand vous êtes libre, vous avez fini votre travail, simplement de vous distraire. Non, apprenez, lisez, écoutez la voix de l'esprit. Cherchez à entendre ce qu'il a à vous dire afin d'aller plus loin. Mais tout ça avec un cœur rempli d'amour. Vous voyez que c'est un mélange extraordinaire. On ne peut pas vraiment faire la part, la différence entre ce que c'est que la connaissance, l'amour, là, et toutes ces choses-là. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Ce sont comme des tranches d'un fruit. Mais cet esprit doit être en nous. Nous devons rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, ça va être très difficile. On va le faire, mais par la chair. Et ça va donner quoi? De la religion? Il faut pas ça. Vous voyez que on marche vraiment sur un fil, nous autres, les chrétiens. On marche sur un fil avec une toute petite lumière au bout du chemin. Et alors, on va vers cette lumière. Mais il faut faire attention. Pas à la perdre de vue, mais non plus pas perdre l'équilibre sur ce fil. Vous voyez que c'est pas rigolo, c'est pas facile. Je sais bien. C'est pourquoi je vous exhorte. Il nous faut connaître la science, la somme de la science des mystères de Dieu, mais toujours gardé par cet amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide tous les uns les autres à ne pas perdre cela de vue et à être véritablement dans l'équilibre. Amen. Merci Jésus de nous aider à nous parfaire. Je sais que beaucoup de mes frères et sœurs qui sont ici et ceux qui écoutent dehors sur Internet ont un cœur plein d'amour. Je le sais, Seigneur. Mais je sais aussi une chose, c'est que tu attends la perfection de nous. Et nous savons par nous-mêmes que nous avons besoin de nous perfectionner encore. Je sais, moi, que j'ai besoin de me perfectionner dans cet amour, d'être encore davantage à l'écoute des autres, d'être davantage plus pragmatique, d'être beaucoup plus... Seigneur, aide-moi, aide-nous chacun d'entre nous afin que ton nom soit glorifié, que tu puisses déverser dans nos vases la connaissance, la science dont nous avons besoin pour aller encore plus loin, pour nous investir encore plus pour la gloire de ton nom. Merci Jésus de nous aider. Veuille bénir mes frères et sœurs, me bénir et bénir tous ceux qui viennent écouter ces messages sur Internet dans le nom de Jésus. Je pense particulièrement à Sébastien en Suisse, à notre frère Michael vers Orléans. Je te remercie de les bénir, la sœur Bonnet aussi, et tous ceux qui m'écrivent, mon Dieu, j'oublie les noms, tu sais que je ne peux pas me souvenir de tout le monde, mais bénis-les, Francis et tous ces gens, bénis-les, garde-les dans ta paix, dans le nom de Jésus, mon Dieu. Et aussi, Alex et sa femme là-bas, au nom de Jésus, oh ça y est, les noms me reviennent. Merci Seigneur, Amen, gloire à Dieu.